Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel. Je suis présentement en hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons quitté Paris hier, donc nous sommes dimanche, et nous sommes arrivés au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est situé du côté de la Normandie et presque à la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Donc le Mont-Saint-Michel abrite une abbaye exceptionnelle. C'est une des sept merveilles du monde. Alors, je reviens du côté de Paris et je peux vous dire que comme pèlerin, je sens qu'il se passe quelque chose en moi. C'est-à-dire que nous avons à chaque jour réalisé ces pèlerinages, nous avons visité des églises, nous avons donné le récit de ce que nous avons vécu, ce que j'ai vécu et... Là, j'ai quitté Paris en direction du Mont-Saint-Michel. Je m'aperçois que tout ce que j'ai pu vivre en quelques jours fait partie déjà d'un certain passé. Je n'entrevois pas beaucoup l'avenir, ce qui veut dire que je me sens enraciné dans le présent et dans le moment présent. Je ne sais pas si les pèlerins qui font de grands pèlerinages, par exemple Compostelle, vivent cela. Peut-être partent-ils avec le baluchon du passé et de leur présent qu'ils vont quitter petit à petit. On va finir par ne plus penser à la maison, à son travail, à ses amis, et faire en sorte qu'on va retrouver une autre terre, mais aussi d'autres visages et d'autres climats. Probablement que ça ressemble à cela. Alors pour moi, qui suis pèlerin pour vous, je ressens que le baluchon du passé fait partie de mon histoire, mais que je viens de basculer dans le présent. Je ne pense plus à hier, je vis au moment présent, et je ne pense pas beaucoup à demain. C'est sans doute la grâce du pèlerinage, de se retrouver dans ce moment présent où Dieu est Dieu. Nous sommes avec le Seigneur. Je suis avec le Seigneur, ça suffit. Et les personnes que je vais rencontrer au cours de ce présent, ils sont toujours au présent. Ces gens-là aussi sont au présent. Donc c'est une pensée, une réflexion qui me semble importante. Dans le pèlerinage de notre vie, souvent, nous entendons cette expression comme croyant. C'est même dit dans les textes bibliques, dans les pensées des spirituels, que nous sommes en pèlerinage. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage en ce monde. Nous allons vers le Père. Jésus le dira lui-même, qu'il est tourné vers le Père. Qu'il passe de ce monde au Père. Et Jésus est certainement dans le présent. Le présent. En même temps, il récapitule, comme on dit. Il reprend toute l'histoire de l'humanité en sa personne. Et il l'offre à l'amour et à la gloire du Père pour que toute cette humanité de tous les temps et de tous les lieux puisse monter vers le Père. J'aime bien cette expression de Jésus. Quand il dit « Vous, vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. » Alors je ne suis pas encore en haut, je l'espère un jour, mais je suis quand même élevé aujourd'hui sur le Mont Saint-Michel, d'où je vous parle. Je vais vous raconter un peu le départ de Paris, donc petite valise, parce que nous sommes accueillis chez les moines de la Fraternité monastique de Jérusalem au Mont Saint-Michel. C'est, je crois, un privilège que nous avons, parce que sur le Mont Saint-Michel, il n'y a personne qui réside autre que cette fraternité d'hommes, mais aussi il y a un étage pour les femmes. Les fraternités monastiques de Jérusalem sont des fraternités mixtes, mais chacun a son étage, son lieu de vie, et il se retrouve pour la prière commune, la prière monastique évidemment. Et il y a aussi un sanctuaire où se trouve un prêtre qui est recteur de ce sanctuaire et un séminariste que nous avons rencontré. J'en parlerai un petit peu plus tard. Alors nous avons pris le métro à Paris, et nous nous sommes rendus à la gare de Montparnasse. C'est une gare importante dans la ville de Paris, d'où partent les trains. Nous avons pris un inouï. Savez-vous ce que c'est, un inouï? C'est le TGV, très grande vitesse. Ils ont baptisé, il y a quelques années, le TGV en inouï. Alors, vous avez une contraction de l'anglais et du français. Je ne sais pas comment les Français ont réagi, ni les Anglais, mais nous sommes dans un inouï qui va nous mener à Rennes. Alors, nous sommes montés, et mon collègue, qui connaît quand même assez bien la France, moi, je le suis comme un enfant. Alors, on est monté dans le inouï, nous avons tourné du côté gauche et nous nous sommes installés. Nous étions pas ensemble, mais pas très loin. Et à un moment donné, on est venu nous dire que on n'était pas vraiment à la bonne place. Alors, mon collègue s'est levé et il a fini par trouver notre lieu. Alors, nous avons repris nos choses, et là, nous sommes allés du côté droit. Et nous avons roulé, en tout cas, ou filé, on ne sait plus si ce sont des roues ou autre chose. Alors, le inouï nous amenait à Rennes. Donc, Rennes est située en Bretagne. Et là, nous avons fait une escale assez longue à Rennes. Cela nous a permis de prendre le repas du midi. Donc nous nous sommes attablés dans un petit café qui était là et nous causions. Et tout à coup, le voisin, c'était un homme d'un certain âge, pas très âgé mais quand même, il a reconnu que nous étions des Québécois, donc il nous a dit « Vous êtes Québécois ?» Nous avons répondu « Oui ». Et « Oui ». Et là, il nous a dit, vous savez, il s'est passé des choses importantes à Saint-Malo. Alors, on était comme deux points d'interrogation, évidemment, il s'est passé des choses importantes. Moi, je sais très bien que Jacques Cartier est parti de Saint-Malo, mais on est resté, je suis resté un peu, j'attendais qu'il parle. Alors, il nous a dit, comme s'il nous l'apprenait, comme si c'était une révélation, que Jacques Cartier, en 1534, est parti de Saint-Malo pour, en tout cas, dans son cas, c'était pour les Indes, vous savez. Mais il est arrivé de notre côté. Alors, il nous a parlé comme cela, et il nous a dit comment le Québec avait investi dans la restauration de Saint-Malo, qui est une ville fortifiée, et là, nous étions en mesure de, parce que moi j'ai déjà visité Saint-Malo, mon collègue aussi, nous étions en mesure de dire que il y a des similitudes, des ressemblances entre la ville de Saint-Malo, le vieux Saint-Malo, et une partie du vieux Québec. Parce que ce sont des gens qui sont partis de là, d'autres de La Rochelle plus tard, et qui vont venir chez nous, donc ce sont nos ancêtres. Mes ancêtres viennent de Normandie. Alors, je suis présentement en Normandie. Alors, mes ancêtres viennent de là. Ils sont arrivés il y a plus de 400 ans. Mes ancêtres ne s'appelaient pas Veilleux. Notre ancêtre, l'homme qui est venu est Nicolas Viriol. Alors, avec les années, à un moment donné, on voit dans les registres Viriol, Viriol, et là, on voit des X, parce qu'ils ne savent plus écrire. Ils ne savent plus écrire. Donc des X, et là, on voit apparaître Veilleux. Donc, je suis un Veilleux, comme bien des Veilleux, mais notre ancêtre est Nicolas Viriol. Eh bien, nous allons faire ce bout de chemin encore, nous allons quitter. Oui, alors je reviens dans le petit café où nous sommes, donc la conversation va s'établir entre cette personne, mais il y a aussi un autre couple qui est là, ils viennent d'Alsace, et ils ont loué une maison de campagne où ils viennent assez régulièrement. Comme je les écoute, ils parlent et s'expriment, et c'est intéressant parce que l'homme, lui, est d'un certain âge avec sa dame, qui s'appelle Bernadette, puisque au moment où elle voudra se rendre aux toilettes, alors il lui dit que ça va coûter quelque chose, ça va coûter 1 euro. Alors Bernadette, elle l'entend, oui, mais elle ne l'écoute pas dans le sens où elle s'arrête pour lui dire qu'elle a compris. Alors il lui parle, puis il finit par dire « Bernadette ». Donc, il raconte, lorsqu'elle n'est pas là, il raconte ceci. Alors, il dit, nous avons réfléchi beaucoup, nous avons pensé peut-être nous acheter une maison de campagne. Nous avons déjà notre maison en Alsace. Alors, une maison de campagne au bord de l'océan, de la mer, nous avons réfléchi. Et qu'est-ce qui a déterminé la réflexion? C'est simple. Ma femme, elle m'a dit ceci. Je fais le ménage à la maison. Si nous achetons une autre maison, je vais devoir encore faire le ménage? Eh bien, sinon. Alors, ça a été réglé. Ils ont décidé de ne pas acheter de maison de campagne, mais de louer. Ils ont trouvé quelque chose qui leur convient. De louer, de venir et de payer et de s'en retourner chez eux sans avoir à entretenir la maison de campagne. Alors, on entend toutes ces discussions, vous savez. C'est la vie du monde, c'est la vie des gens. Alors les personnes parlent de manière simple et ouverte. Donc Bernadette est revenue et elle ne parle pas, mais elle voit, elle regarde, c'est son regard qui parle. Donc nous allons saluer ces gens et repartir en direction de Pont-Orson. Alors il faut y penser un peu, hein. Pont-Orson, c'est l'endroit où nous arrivons en train. Là, le TGV, c'est fini, le Inouï, c'est fini. Donc, c'est un train et qui nous amène à Pont-Orson. Et donc, de là, nous allons prendre un bus ou un car, selon l'expression des uns et des autres. Nous allons monter et le car nous amène à quelques pas du Mont Saint-Michel. C'est toujours impressionnant de voir de loin lorsqu'on s'approche le Mont Saint-Michel. C'est beau. C'est une des 7e merveilles du monde. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ce lieu. Et il y en avait beaucoup hier. C'est un samedi. Donc il faisait beau. C'était agréable. Donc, ils ont refait, parce que moi, c'est la 3e fois que je visite le Mont Saint-Michel. Je l'ai fait avec des pèlerins au moins 2 fois. Là, je viens en pèlerinage solo et c'est différent. Donc, je vois les structures nouvelles. Je vois qu'ils ont fait une route importante, élevée, surélevée, pour nous aider à nous rendre au Mont Saint-Michel. Parce que là, c'est ce que nous disait une sœur, une religieuse ici, nous quittons le continent. Elle a dit cela. On est en dehors du continent. On quitte le continent et là, c'est une île. C'est une île avec la mer qui arrive avec ses marées. Nous sommes dans la période des grandes marées. Il y a eu, semble-t-il, il y a quelques jours, les grandes marées. Là, il y a une accalmie et elles vont revenir. Lorsque c'est les grandes marées, c'est quelque chose, semble-t-il, c'est un spectacle à voir. Et la prudence est de mise pour les personnes qui veulent venir sur l'île. des carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet. Vous entendrez l'intégralité des 13 monologues que j'ai écrits sur des personnages fictifs ayant vécu autour de 60 ans après Jésus-Christ. Chaque personnage est en lien avec les évangiles ou lettres de saint Paul. Dans le rôle du soldat romain, Jacques-Henri Gagnon, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue. 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, un soldat romain. Narration, Jacques-Henri Gagnon.
Onésime, mon vaillant serviteur, approche la lampe près du lit et donne-moi un peu d'eau. J'ai soif. Tu m'as suivi jusqu'ici après cette bataille qui m'a valu une blessure, laquelle ne s'est jamais refermée. Toujours cette coulée de pus qui me rappelle que les jours s'en vont les uns après les autres et que je descends, moi aussi, dans l'ombre. Il y a si longtemps, tu te rappelles, je t'ai choisi sur la place du marché parmi une multitude d'esclaves venus de partout. Je vois encore ces hommes bâtis comme des chevaux, capables de vaincre tous les ennemis. Ce jour-là, moi, je t'ai emmené parce que dans tes yeux, il y avait un morceau de ciel. On ne voit pas à Rome des yeux d'un bleu pareil à celui-là, non pas comme ceux des femmes, mais un bleu qui nous amène dans le fond de la terre et nous fait monter jusqu'à la hauteur des poitrines. C'est ça, un bleu poignant. Tu m'as dit dès le premier jour ne rien connaître de tes origines. Tu n'as aucune idée de ta mère, de ton père, rien. Et qu'est-ce qui t'avait amené là avec tes 15 ans, tes cheveux sales et ton nez morveux? Tu appartenais comme tous les autres autour de toi à une bande de chiens crevés, n'ayant même plus la force d'aboyer. Mais moi, j'ai un cœur. Et j'ai vu en toi bien autre chose qu'une bête. Ne pleure pas. Je suis si fatigué aujourd'hui que je suis comme cette lampe qui bientôt sera au bout de son huile. Je vais m'éteindre en te laissant, toi que j'aime plus que tout. Je n'ai pas eu d'enfant, du moins pas à ma connaissance. Comment prendre racine lorsqu'on t'envoie partout dans l'Empire pour la Pax Romana? Quelle illusion! La Pax Romana n'est qu'un long fleuve brouillé qui ramène vers lui la misère, les estropiés et l'or des autres, les chiens crevés. Nous pouvons nous vanter d'avoir participé au sac de Jérusalem et d'avoir ramené de là la Ménorah sur nos épaules. Notre force, nous l'avons dérobée à celle des esclaves qui ont porté ce chandelier sur leurs épaules. Elle est celle de tous les autres qui n'ont pas eu notre nombre. C'est le nombre qui fait la différence. Tu sais comment je t'ai choisi? Je ne t'en ai jamais parlé, mais c'est la plus belle histoire du monde. C'est mon histoire à moi. Je n'ai rien de plus beau à raconter. La veille de notre rencontre, on m'avait envoyé faire le poteau devant des voyous crucifiés à Jérusalem. À l'annonce de cette mission, mon cœur s'était refermé comme une huître, sans vigueur comme la fumée poussée par le vent. Je n'ai jamais aimé sentir la mort. Ça se sent, tu sais, avec les narines. La mort, ça donne une odeur de sang mêlée à la sueur des hommes. Drôle de mixture, nauséabonde et répugnante comme certaines potions qui nous font lever le cœur. Non, vraiment pas pour moi. Je vomissais presque chaque fois que je rentrais à la caserne des soldats à la forteresse Antonia. Ce vendredi-là, on avait amené un prisonnier, un juif, qui s'était proclamé empereur. C'est ce qu'il disait, ces juifs haut placés, qui, avec leurs grands bras, sous leurs grands manteaux, lui riaient sous le nez. Mais je voyais tout, sans voir, et j'entendais tout, sans entendre. Tu comprends? Ce jour-là, ça sentait encore la mort, plus que jamais, je dirais. J'ai donc pris le temps de regarder. Deux misérables attendaient leur châtiment final depuis des heures, et je n'aurais pas donné un oiseau pour les sortir de là. Deux voyous, ça se voyait. Un troisième homme était finalement arrivé. Celui-là, j'aurais donné 1000 colombes pour lui éviter le sort qu'on lui destinait. Il saignait de partout. On l'avait flagellé. Je sais comment on s'y prend, tu sais. Pas joli. On lui avait élaboré le corps de dos, puis de face, pour qu'il ne soit plus reconnaissable. Il ne disait pas un mot, mais poussait à l'occasion de petits cris tout courts. Il devait avoir des côtes de cassé. Cela n'aurait pas été étonnant, puisque je n'avais jamais vu un condamné aussi maltraité. Avant sa crucifixion, la garde à qui on l'avait remis avait perdu la raison. Des fous, que je te dis. Comme si on peut traiter les humains comme des raisins. Tu vois, Onésime, quand je t'ai parlé de cette potion qui sent la mort, eh bien, j'avais devant mes yeux les vignerons de l'Empire, fiers de ce qu'ils venaient de faire. J'entendais aussi des pleurs et des cris étouffés qui montaient vers moi. J'ai jeté un regard un peu plus loin et j'ai vu des femmes qui pleuraient. Elles étaient 3 ou 4 et un homme tout jeune, à peu près de ton âge, qui désirait s'avancer. Pour revenir à ce qui s'est passé, les fous l'ont hissé sur la poutre à la vitesse de l'éclair entre les deux autres. Des enragés, des chiens qui hurlaient. Dès qu'ils l'ont aperçu tout en haut, bien cloué, ils se sont mis à chanter et à faire des grimaces comme des ivrognes. Quand tu bois le sang des autres comme ça, tu deviens saoul. Moi, je faisais le poteau, comme je te dis. Je devais rester sur place jusqu'à la fin, descendre avec les autres, les corps, et ramener tout ça dans leur géhenne. J'étais à proximité de ces 3 condamnés qui puaient la mort. J'ai entendu l'un d'eux, pour qui je n'aurais pas donné un oiseau, ou la moitié d'un oiseau, parler à celui du milieu. Dans un cas pareil, bon ou mauvais, tu es toutes oreilles pour capter le dernier mot de ces gars-là. J'ai remarqué que leurs derniers mots sont toujours touchants, même quand il s'agit de maudire leur bourreau. C'est la dernière chance que ces hommes ont d'être entendus, même si personne ne semble les écouter. Or, il n'y a rien de plus fou. On écoute, même si on feint d'être sourd. Ça m'a fait un drôle d'effet quand le voyou lui a demandé « Amène-moi là où tu pars ». Je n'avais jamais entendu un discours pareil. Le dernier arrivé, bien cloué sur sa croix, a levé la tête. Je ne sais pas où il a pris la force pour le faire. Ce n'est pas possible comment il était massacré. Moi, je faisais en sorte de ne pas perdre un mot. Je ne pensais pas qu'il aurait la force de lui répondre. Il a donc regardé son voisin, Puis il lui a dit très lentement, « Ma brebis perdue, aujourd'hui avec moi. » Comme ça pleurait et gémissait sur la place des crucifixions, je n'ai pu saisir l'ensemble des autres mots, mais j'ai gardé comme un secret ceux-là, avec moi dans le paradis. Le paradis. J'ignore ce que c'est. Tu le sais, toi? C'est peut-être bergerie que j'aurais dû entendre. Une brebis, ça rentre à la bergerie, non? Mais ce mot « paradis » est resté collé dans mon esprit. Tu sais quoi? C'est le lendemain de ce vendredi-là, alors que les Juifs ne faisaient rien et que nous autres, les Romains, nous en profitions pour aller nous acheter des esclaves, que je t'ai amené avec moi. Je me suis dit que moi aussi je ferais quelque chose dans ma vie pour quelqu'un. Je ne savais pas si c'était dans une bergerie que tu serais avec moi, ou dans un paradis. Mais je t'ai pris ce jour-là parce que, la veille, le plus massacré des trois avait promis d'amener un malheureux au paradis. Aujourd'hui, Onésime, ma lampe s'éteint, tu comprends? Ne pleure pas. Moi, je sais ce que doit être ce paradis. C'est comme moi pour toi, et toi pour moi. Ne pleure pas. Tes larmes me rappellent les larmes de sa mère. Elle s'est tenue là, sans broncher, jusqu'à la fin. Tu as un peu ses yeux, tu sais. De la voir aussi digne dans son malheur, j'aurais voulu crier, hurler. Mais il fallait que je garde tout ça en dedans de moi. Je pensais à ma propre mère. On en a tous une qui prend soin de nous et qui nous dit de rentrer. Une mère, ça peut s'effondrer quand son enfant souffre. Eh bien non. Cette femme est restée debout jusqu'à la fin. On aurait dit qu'elle savait de quoi son fils parlait avec son histoire de brebis et de paradis, et qu'elle aussi voulait le suivre. Ces derniers mots à lui, pour sa mère, m'ont échappé à cause du vacarme général qui venait de s'intensifier. Le tapage de la foule laissait savoir ainsi son impatience. Je ne sais pas au juste quand il est mort. Il a dû partir comme ça. Quand l'un des gardes s'en est finalement rendu compte, ses deux acolytes ont cassé les jambes des deux autres pour que ça finisse par tomber, tout ça. C'est ça, la mort. Tout tombe, une fois pour toutes. Et pourtant, ça continue. Il y a quelques jours, ici à Rome, on a exécuté un de ses adeptes fameux, un pêcheur venu de Galilée, dit-on. J'ignore pourquoi, celui-là, on l'a crucifié, la tête en bas. Ce n'est pas la coutume chez les Romains. Il faudra le demander. Tu vois, c'est ça la force de l'Empire, la Pax Romana. On met à mort ses ennemis, et on croit qu'on a gagné. Mais pourquoi tu allumes d'autres lampes, Onésime? Il y a de la lumière partout autour du lit. Pourquoi? J'entends ces paroles qui montent en moi. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi. Bergerie au paradis. Pas de différence. Je sens que ma lampe s'éteint.
Vous venez d'entendre « Un soldat romain », la troisième d'une série de 13 émissions intitulée « La Rose Bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte et musique, Denis Veilleux. Narration, Jacques-Henri Gagnon. À la technique, Yannick Caron. Réalisation, Jacques Leblanc.